C'était comme ça. Et c'est toujours comme ça. T'sais. Toi, regarde, personne ne t'aime, puis pourtant, tout le monde t'écoute.
Exact,
c'est
exact.
Bon, hein? C'est bon.
J'ose espérer que mes enfants m'aiment, là, pour ce qui est du reste.
Ah, ça, ça, ta femme, ça va marcher. Ça, c'est... Quand t'as ça, t'as pas besoin du reste.
Exactement. Jean Cazot, quel personnage incroyable. Ça a dû te nuire quand même. Bon, là, je comprends. Mettons qu'on fait abstraction de la pandémie, là, puis de tes opinions par rapport à la pandémie. Ouais, ouais. Ça a dû te nuire quand même, parler des ovnis, parler des fantômes et tout ça. Je veux dire, ça a dû te fermer des portes énormément.
Oui, oui. En fait, ce qui est toutefois remarquable, et ça, faut que je le souligne, c'est que j'ai eu quand même une sacrée belle carrière radiophonique standard, malgré tout, comprends-tu? Alors, même si je véhiculais des concepts sur l'ésotérisme ou des concepts sur l'ufologie ou ce que tu voudras, ça n'a pas empêché ma carrière d'avancer. Je suis parti du nec à pigeon de CKCV là, à Place Diouville. Et j'ai fait toutes les stations de la Ville de Québec pour ensuite me diriger ici à Gatineau, où je suis maintenant, où j'ai fait 20 ans de radio, et ça a été des années extraordinaires, avec des cotes d'écoute assez sulfureuses, merci. Alors non, ça n'a pas nuit à ma carrière, mais ça a nuit à tout le reste, ça c'est certain.
Puis est-ce que les gens, mettons tes employeurs, quand tu faisais des émissions d'actualité, puis au travers de ça, tu continuais à jaser d'ufologie et autres, est-ce que les gens trouvaient ça bizarre, le mélange des deux? Puis pourquoi, on pourrait pas parler de ça normalement et librement?
Ben, c'est ça. Ça a très bien été, j'ai jamais eu de problème. J'ai commencé à parler d'OVNI, imagine-toi donc, à CKCV en 1970. C'est pas compliqué. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, Laval-Provencher, tu connais ça, toi, Laval-Provencher?
C'est un nom qui, immanquablement, est parvenu à mes oreilles, mais moi, je ne l'ai pas connu, là. Que tu oublies ton âge, Jean.
Non, bien, le tien non plus. Alors, ce qui se passe, c'est que Laval-Provencher était directeur des programmes à CJRP.
Ouais.
Et il m'avait entendu parler d'OVNI, puis tout ça, puis il était bien curieux, puis il m'offrait une émission. Mais je travaillais à CKCV, il m'offrait pas une job, il m'offrait une émission que je ferais, là, une fois par semaine, chose genre, tu sais. Alors, c'était payant, mais je pouvais pas gagner ma vie avec ça. Et moi, j'avais mon emploi à CKCV. Alors, c'est évident que là, j'ai dit, ben écoute... je travaille à CKCV. Je sais, moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai dit, regarde, je vais demander à mon boss, tu sais, puis mon boss m'a dit non. Il dit, pas question que tu ailles là. Mais il dit, comme je t'enlève quelque chose, je vais t'en donner une émission. Alors, j'ai eu mon émission hebdomadaire sur le phénomène OVNI dès les années 70-71. Alors, ça fait longtemps. Et ça a fait longtemps. Après ça, j'ai eu une autre émission au Canal Laurentien. Ça non plus, ça ne dit rien, Canal Laurentien.
Pas du tout.
Ouais, c'est ça. C'est toutes des vieilles affaires, si tu veux. C'est comme moi, ça. Alors, c'est sûr que Canal Laurentien, c'était ce qu'on appelait la télé communautaire dans le temps, qui aujourd'hui est ma TV.
OK, ah oui, OK. Après ça, ça a passé aux mains de Vidéotron. Après ça,
ils ont fait... C'est allé partout, ça, mais l'ancêtre de MaTV, c'est la petite télévision communautaire. Personne n'est payé. Les décors, c'est des chaises de métal que tu retrouves dans les hôpitaux.
Ouais.
C'est laid, c'est épouvantable. Il n'y a pas une scène de budget. Mais il y a une caméra. Fait que l'idée, c'est de t'asseoir devant la caméra puis d'essayer de... t'en as fait de la télé communautaire à Sainte-Machin, toi, là.
Ouais,
là.
Nous autres, c'était plus dans le style, quand Vidéotron s'en est mêlé, là, ça s'appelait, nous autres, des télévisions locales. Donc, il y avait un directeur général, il y avait tout ça, là, mais c'était privé, là.
C'est ça. C'est exactement ça, mais pas de budget. J'ai regardé la caméra que tu utilisais, toi, à Sainte-Marie-de-Beauce, là.
Ouais.
C'était un beau meuble, ça, c'était bien, ça. Nous autres, ce qu'on avait, là, on me disait, ça ressemblait à un Kodak, là. L'image n'était pas terrible. Mais en tout cas, j'ai eu une émission, là, pendant longtemps, mais ça n'a jamais nui. Jamais. Ça nuit. Il y en a qui ont voulu s'amuser avec ça, mais je ne répondais pas à ça. T'sais, ouais, on sait bien, toi, si, t'sais, quand je prenais position sur une affaire politique, par exemple, parce que j'étais animateur, moi, j'étais chroniqueur, animateur, alors je prenais position. Je n'étais pas un lecteur de nouvelles, là. Alors, j'y allais à fond sur mes opinions, puis si je n'aimais pas un parti politique, je te démolissais brique par brique. Et là, forcément, les gens qui étaient de ce parti-là rentraient en nombre et me disaient « Ouais, toi, on sait bien, tu dis ça, mais regarde, un gars qui croise OVNI, là, aux extraterrestres, là, tu sais, il m'a dire, là. »
Ouais, mais il servait de ça pour te discréditer.
Pour essayer de me ridiculiser.
Je comprends. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, puis je pense que c'est dans la tête des gens aussi, là, OVNI, c'est objet volant non identifié, mais ça signifie pas nécessairement bonhomme vert à l'intérieur.
Ben, c'est-à-dire que là, ça c'est un vieux débat qui date de longtemps. Dans mon langage, moi, quand je parle d'un OVNI, je définis que c'est un objet volant non identifiable. Et non pas que non identifié, parce que c'est jouer ses mots, ça. Alors, oui, les OVNIs existent, oui. Ah ben, là, je me faisais dire, oui, ils existent, mais on ne sait pas c'est quoi. Ça peut être des avions, ça peut être des barges, j'ai dit, non, que rien compris. Regarde, c'est objet volant non identifiable dans mon vocabulaire et moi. Alors, quand je parle d'OVNI, oui, je parle de manifestations qui ne viennent pas d'ici. D'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir cet automne en France et qui pourrait s'intituler dans le genre « Les ovnis ne viennent pas d'ici, il va falloir vous y faire ». Tu sais, c'est à peu près ça. C'est un peu baveux comme titre.
Mais en même temps, Jean, tu sais, moi, je suis comme, mettons, je suis comme Mulder là, dans X-Files. Tu sais, j'aimerais tellement y croire, mais j'ai jamais été témoin de rien. Puis les preuves, on n'en a pas nécessairement. Du moins, j'ai jamais eu accès à ces preuves-là. Moi, j'étais un gars, comment qu'il s'appelait dans la Bible? Tu vas me dire ça avec tes grandes connaissances. Je ne crois pas sans avoir vu.
Oui, Thomas.
Thomas, ouais, c'est ça. Je suis Thomas, moi.
Ouais. Non, c'est sûr. T'es pas le seul. T'es vraiment pas le seul.
Mais
c'est
pourtant, j'ai une ouverture là-dessus. Je veux y croire. Je veux qu'on me prouve qu'il y a quelque chose ailleurs parce que je suis persuadé que quand on explore l'univers, écoute, l'univers est pratiquement infini. Là.
Ah, ben oui.
Je peux pas croire qu'il n'y a pas une petite bactérie quelque part.
Mais c'est ça le travail à faire parce que à partir du moment, Yannick, à partir de l'instant où tu me dis. Je suis convaincu qu'il y a de la vie. Je dis même pas de la vie intelligente, là. De la vie, point. Tu sais, un microbe, c'est de la vie, là. Alors, je suis convaincu qu'il y a de la vie ailleurs, quelque part, dans cet univers-là. Si tu me dis ça, tu peux plus t'arrêter. Tu peux plus t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter à ça. Parce que ce que la science nous enseigne, c'est que tout est évolution. Tout évolue. Ça grandit, ça se transforme. Regarde ce qu'on était à l'origine. On était un petit poisson dans l'eau. Tu sais, je veux dire, ça a évolué. Il y a une créature qui est sortie de la mer, qui a devenu un mammifère. Le mammifère, ils sont devenus toutes sortes d'affaires, dont des singes éventuellement, duquel un de ceux-là, plus brillant que les autres, a commencé à se tenir debout, puis à faire des choses un peu plus intelligentes que les autres, puis c'est développé, devenu l'homo habilis, l'homo erectus, l'homo... pour finalement, il y a 300 000 ans, devenir l'homo sapiens, c'est-à-dire nous autres.
Mais sapiens. Moi, je pense que j'ai arrêté à l'homo erectus.
Oui, je m'attendais donc à ça.
C'est sûr.
C'est bien certain. c'est sûr, ça. Fait que, non, mais c'est vrai. C'est tout. L'évolution, c'est universel. Tout évolue. Tout. Il y en a dont l'évolution est lente. Tu sais, le requin, le crocodile, ils sont pas mal maintenant ce qu'ils étaient il y a X millions d'années. Ça a évolué, mais des fois, ça involue, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer de taille. Tu sais, comme les requins étaient gros en maudit. Là, le mégalodon, là, c'est une affaire d'à peu près 60, 70, 80 pieds, ça. Ben, tu sais, heureusement qu'il n'y en a pas à Détournebiche parce que on va te dire, ça te ferait un maudit clean-up sur le bord de la mer. Mais ça n'existe plus. Ou en tout cas, s'ils existent, ils sont dans les abysses. Et tout ça pour dire, as-tu vu le film avec Jason Statham? Meg? Avec le gros requin, là. Maigre.
Oui, ben oui. Oh, oui, j'ai oui. vu ça.
Bon, ben ouais. ce requin-là, c'est du cinéma, mais la taille, la représentation qu'on en fait, elle est vraie, elle est authentique. C'était gros. Alors, il tapait des affaires énormes, ça. Mais ça a évolué de la grosseur qu'ils ont perdue. Ils ont gagné en intelligence, ils ont gagné en cerveau, parce que plus un corps est gros, plus le cerveau doit l'être pour faire marcher tout ça. Alors, imagine un cerveau de dinosaure, c'était tout petit. Alors, il n'y a pas grande chance que ça devienne intelligent, ces affaires-là. Sauf un d'entre eux qui aurait pu, si les dinosaures n'avaient pas, n'étaient pas disparus, le troodon, tu checkeras ça dans tes feuilles, le troodon, T-R-O-O-D-O-N, était un foutu bon candidat à devenir intelligent. On aurait pu devenir, non pas les descendants d'un singe, mais les descendants d'un reptile, d'un lézard. Alors, mais tout est évolution. Alors, à partir du moment où tu me dis, moi, Jean, je pense que quelque part dans l'univers, il y a de la vie. Là, je pourrais te demander, oui, quelle sorte de vie tu vas me dire,
En fait, j'ai pas dit je pense. J'espère qu'il y a de la vie ailleurs. Puis tu sais, moi, je suis abonné à plein de petits sites web là, que je trouve franchement...
Non, c'est pas ça que tu as dit tout à l'heure. Je regrette. Bon. Je te cite. Tu as dit tout à l'heure, ça se peut pas qu'il y ait pas de vie ailleurs. C'est ça que tu as dit.
J'ai peut-être dit je peux pas croire. Mais bref, tu sais, moi, je suis abonné à plein de sites Internet. Tu sais, le Futura, là, j'imagine que tu suis ça
toi aussi.
Ben
oui,
je suis le développement du télescope James Webb qui nous amène des photos, là, puis des articles par la suite qui sont écrits sur James Webb. Puis je trouve ça formidable. Puis là, dans les dernières heures, on avait appris que James Webb surveillait une planète, puis ils ont découvert de la vapeur d'eau en observant cette planète-là, peut-être qu'un jour, que s'il y a de la vapeur d'eau, il y a certainement peut-être une planète avec de l'eau dessus. S'il y a de l'eau, il peut y avoir de la vie.
On est à peu près certain qu'il y a un océan sous les glaces de Ganymède, qui est un des satellites de Jupiter. Il y aurait de l'eau, une mer, un océan, carrément. Peux-tu me faire croire qu'il n'y a rien là-dedans, toi? La vie vient de la mer. La vie sur Terre vient de notre océan.
Selon notre connaissance actuelle, la vie viendrait avec de l'eau, mais il peut-tu avoir d'autres choses ailleurs? Je ne sais pas.
C'est sûr.
Mais oui, s'il y a de l'eau quelque part, il y a des possibilités telles que nous, on pense qu'il y a de la vie. Ça peut être des petites bactéries, ça peut être...
Notre dépendance aux connaissances actuelles, qui sont quand même assez restreintes, veut que à peu près tout élément de vie parte de l'atome de carbone. Alors, la vie, c'est du carbone, c'est pas compliqué, tout est du carbone. Et s'il y a du carbone, il peut y avoir de la vie, mais ça prend de l'eau. 70% de notre corps, c'est de l'eau, hein? L'eau salée en passant. Alors, de l'eau, du carbone, si tu as ça, tu as des grosses chances que tu aies de la vie. En fait, c'est à peu près impossible qu'il n'y en ait pas. C'est à peu près impossible. Pour ça, c'est sûr que là, il faut commencer à se dire, il faut que ce monde-là soit à une distance X de son soleil, lequel doit être de type Y, et qu'il y ait un champ magnétique. Il y a toutes sortes de conditions qu'on met. Mais n'oublie pas, dans une seule et unique galaxie, il y a entre 200 et 300 milliards de mondes. Il y en a combien de galaxies? Entre 4 et 500 millions de milliards, de galaxies. Écoute bien, là, ça en fait, là. Ça en fait du monde. Alors, c'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvé qu'il n'est pas là, mais il n'y a pas seulement que ça. Je veux dire, avec quoi on cherche? Bravo, James Webb, oui, effectivement, c'est un satellite infrarouge absolument extraordinaire. Mais c'est de la quincaillerie, c'est pour les enfants, je vais te poser une question. Combien de satellites, ou si tu préfères, des sondes spatiales, comment est-ce qu'il y en a actuellement dans l'univers, en dehors du système solaire, je parle?
Des milliers?
Ouais, il n'y en a pas une maudite.
Attends, je comprends pas. Donc, j'ai pas compris ta question. C'était quoi ta question?
Non. OK. Combien, ben là, j'ai donné la réponse, là, mais combien y a-t-il d'objets fabriqués par l'homme qui voyagent à l'heure actuelle dans l'univers en dehors de notre système solaire?
Oh, en dehors de notre système solaire, excuse-moi, c'est le bout que j'avais raté. Ben, c'est ça, il n'y en a pas.
Ben, il n'y en a pas. Il y en a eu deux. Il y a eu Voyager, puis Pioneer. Deux fois. Alors, à un moment donné, il était quatre. Là, il en reste peut-être une, là, mais regarde, elle fait plus rien. Là,
on a Starman qui se promène un peu. Là, Starman, le véhicule Tesla, là, qu'on avait envoyé dans l'espace avec une caméra et tout ça. Starman,
bon, ben, il est encore dans le système solaire.
Ah, oui.
Écoute. Non. Alors, nous ne sommes jamais allés explorer. On a envoyé le Hubble, qui, lui, dans le système solaire, c'est un photographe, le Hubble. Il a pris des photos. C'est rien que ça qu'il prenait. C'est un télescope. Il prenait des photos. On a des photos. James Webb, c'est pareil. Lui, il prend des photos à l'infrarouge, ce qui révèle beaucoup plus la nature de ce qu'on photographie que simplement une photographie ordinaire. Alors, c'est pour ça que Webb, c'est quand même fabuleux. Et tout ça existe, mais c'est rien. L'homme, le plus loin que l'homme est allé physiquement, lui, c'est sur la Lune. Shit, c'est l'autre bord de la rue. C'est l'autre bord de la rue.
Mais nous, on réalise pas ça. Moi, c'est à partir du moment où je vois des photos ou des représentations de la Voie lactée que je me dis, hey, on est pas mal plus petit qu'on pense. Là.
Ah, ben écoute, la Terre comme telle, je regardais un reportage récemment où on nous montre un trou noir gigantesque. Alors, l'image est là, puis là, c'est à peu près gros comme une boule de quille. Et là, il y a un petit point qui est là, puis ça, on nous dit ça, c'est notre Soleil. Puis nous, là, on est un petit point comparé au Soleil, tu sais. Fait que tu me dis qu'on est petit, tu sais, et oui, on est petit. Mais en plus de ça, c'est que la Voie lactée que tu vois, c'est une parmi des milliards et des milliards d'autres galaxies. T'sais. Alors, c'est clair qu'il y a... je comprends pas comment quelqu'un pourrait dire « C'est nous autres les meilleurs, c'est nous autres les plus forts, puis on est les seuls qui vivent, les seuls intelligents. » Surtout quand c'est dit comme ça, là, ça paraît... T'sais, ça me donne une bonne impression.
Ouais. Quand est-ce que tu t'es mis à jumeler être venu d'ailleurs... Et fantôme, c'est-tu moi qui rêve ou tu as déjà mis ça ensemble comme si c'était,
non,
c'était ensemble?
En fait, c'est ensemble. C'est pour ça que je parle maintenant, moi, que je travaille dans l'ufologie profonde, je l'appelle de même, parce qu'il y a une profondeur que les ufologues en général mettent pas, parce que moi j'en connais beaucoup d'ufologues, j'ai eu des meetings... comment ça s'appelle ça, là, stream control, là, stream yard, ça, Zoom, whatever, là. Fait qu'on a fait des conférences ensemble, puis des choses. Alors, j'en connais une gang. Il n'y en a aucun qui traite le paranormal. Aucun. Je suis le seul ufologue qui a donné autant de temps au paranormal qu'à l'ufologie comme telle. J'ai moins publié, c'est vrai, mais j'ai travaillé aussi fort, j'ai fait autant d'enquêtes que j'en ai fait en ufologie. Pourquoi? Parce que très, très tôt dans ma démarche, auprès de témoins, d'expérienceurs, comme je les appelle, j'ai constaté, en creusant un peu, parce que les ufologues, malheureusement, les ufologues, c'est pas tous des enquêteurs, c'est pas tous des gars qui ont une formation dans ce domaine-là. Moi, mon travail de journaliste puis de reporter, ça m'a amené. Oublie pas qu'on est des enquêteurs d'une certaine façon. Toi, quand tu reçois un invité, tu lui poses des questions, hein, tu l'interroges d'une certaine manière. Puis si tu es moindrement pas trop sûr de ce que le gars dit, ben, tu vas y rentrer dedans un petit peu plus, tu sais, comme un enquêteur va le faire avec un témoin dans la salle d'interrogatoire. Alors, moi, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Et je m'intéressais énormément aux témoins, autant sa vie, son milieu, son environnement, que je pouvais m'intéresser à ce qu'il avait observé. Alors, j'y posais des maudites questions bâtardes. puis j'y rentrais dans le corps. Et à un moment donné, ben là, ça créait une espèce de lien. Et là, le gars commençait à me dire, surtout quand je disais, toi là, j'ai l'impression que tu as vécu d'autres choses puis tu ne veux pas m'en parler. Qu'est-ce que tu as vécu d'autre? Tu as vécu quelque chose, toi. Là, le gars te regarde puis il dit, shit. Puis là, il dit, ouais, mais là, si je t'en parle, je ne veux pas que tu dises un mot de ça à ma femme. Elle sait que tu es ici pour l'OVNI qu'on a vu, là, tous les deux, là. Mais quand elle va revenir tout à l'heure, là, je ne veux plus qu'on parle de ça parce qu'elle ne sait pas ça. J'en ai parlé à personne. Là, le gars raconte ce qu'il a vu au bout de son lit, la manifestation qui était là. Puis là, ça part. Puis là, le gars, il raconte. Puis après ça, là, je le regarde, puis j'ai dit, « Ouais, mais es-tu sûr que c'est la seule fois? » C'est drôle, hein? Moi, j'ai l'impression que ça t'est arrivé quand t'étais petit gars, ça. Quand t'étais enfant. Ça se peut-tu? Là, il me regarde encore, tu sais. Ouais. Je pensais pas parler de ça. Ben oui. C'est tout lié. Alors là, en disant ça, le gars, il commence à devenir un peu plus intéressé, là, parce que là, il se dit, comment ça, c'est lié? Ce que j'ai vu dans le champ, c'est lié à ce que j'ai vécu quand j'avais 8 ans. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti pour moi. Et ça, j'ai développé ça pendant des années. Mais j'écrivais pas encore là-dessus. J'étais pas assez sûr de mon coup pour publier là-dessus. Et j'ai commencé à le faire dans un livre qui s'appelle quoi déjà, donc? Oh mon Dieu! Ça se peut-tu? J'ai oublié le titre de mon foutu livre. J'en ai 27. Ça veut dire que j'étais l'ufologue le plus publié au monde.
T'es sérieux? Ah oui?
Oui, oui. J'ai pas dit qu'il en a vendu le plus. Ça, non.
Mais qu'il a fait le plus de livres?
Ah oui, oui. Toute langue confondue à part ça. Okay. Comment ça s'appelle, c'était maudit? Révélation spectaculaire sur les faits maudits. J'ai sorti ça en 2016. C'est là que je fais un coming out paranormal à l'intérieur de mes travaux sur l'ufologie. Okay.
Au niveau des observations, là, on prend une observation. On prend la même observation pour le Québec puis pour le Brésil, mettons. Il y a quelqu'un qui est dans sa cour arrière, c'est le soir, puis là, ben, il y a un genre de fumée blanche qui semble prendre l'apparence de quelque chose, puis elle passe à côté de l'individu. L'individu va se revirer puis il va dire « Ah, c'est un fantôme ». Si on est au Brésil, la personne qui est dehors, qui voit cette même fumée blanche, qui prend une apparence, va dire « Ben, j'ai vu l'apparition de la Sainte Vierge. » C'est la fameuse pareidolie, là. J'ai vu l'apparition...
Pareidolie, oui.
C'est pareidolie, c'est ça. Donc, comment tu fais pour... Parce que, tout dépendant des croyances des individus, ils vont avoir différents mots. T'sais. Toi, comment tu fais
pour... Oui, ça me dérange pas.
Non?
Non, ça me dérange pas parce que moi, moi, là, si je suis en train de faire mon enquête auprès du Brésilien qui me dit que c'est la Sainte Vierge, la Santa Maria, tu sais, puis qui me raconte tout ça, moi, je ne m'occupe pas de la Sainte Vierge. Je ne m'occupe pas de ça. Je m'occupe de ce qu'il est en train de me dire. Je regarde sa sincérité, je regarde l'émotion qui est sortie de là. J'écoute sa description et c'est avec ça que là, je vais me faire une opinion. En passant, un point intéressant, il a été démontré, et ça fait déjà quelques années que c'est sorti, ça, ce livre-là, mais là, je n'ai pas le titre dans ma tête. Les filles à Fatima. Il y avait deux filles et un gars. Les filles ont fait des dessins de la Sainte Vierge qui était là. Ces dessins-là ont été cachés parce que ça ne ressemblait pas à une Sainte Vierge. Pantoute. Et là, c'est l'Église qui a fait d'autres dessins d'une belle Sainte Vierge avec un cœur qui saigne, puis tout le kit de guerre, et qui ont montré ça aux gens en disant, voici ce que les enfants ont vu, c'est la Santa Maria, puis ainsi de suite. Alors, de la manipulation par l'Église, là, c'est pas pour rien que j'écris encore là-dessus, puis j'ai pas fini.
OK. Mais il était...
C'est ça. Alors, moi je m'occuperais pas de savoir... Je ne m'occuperais pas de sa culture.
Okay.
Lui, il a une culture religieuse. Ils vont me parler de la Sainte Vierge pendant 2 heures de temps. Moi, exact. C'est pas ça. Je veux une description.
Parce que le cerveau a horreur de voir quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, il va essayer de trouver des similitudes pour la rapprocher le plus possible de ce qu'il connaît. OK.
Mais attention là. C'est vrai ce que tu dis là, mais il y a quand même des limites à ça. Comme par exemple, t'es tendu sur la plage avec ta blonde, puis tu regardes le ciel, puis il passe des nuages, puis à un moment donné, tu te dis « Ah, regarde un lapin, on dirait un lapin. » Tu sais, puis là, l'autre va dire « Ah, un aigle, un bateau, whatever. » Tu sais, les formes de nuages, tu sais, Alors, ça, c'est de la pareidolie, parce que le cerveau aime bien, quand il voit quelque chose, l'assimiler à quelque chose qu'il connaît. Alors, si tu vois comme deux espèces d'oreilles qui montent, bien, tout de suite, c'est quoi des grandes oreilles? C'est un lapin, tu sais, tout de suite, en partant. Si tu n'as jamais vu de lapin, tu vas trouver d'autres choses. C'est pareil comme, il y a un gars, il avait pissé sur un mur, puis il était convaincu que c'était le visage du Christ, tu sais. Bien, là, la pareidolie, des fois, c'est drôle. Là. Mais ça n'ira pas jusqu'à transformer littéralement une masse gélatineuse en une statue de Michel-Ange.
Ouais.
Il y a des limites. Là.
Qu'est-ce qui fait en sorte que les apparitions sont plus présentes à certains endroits que d'autres?
Parce que, encore là, c'est l'élément culturel qui entre en ligne de compte. Au Brésil, le ministre de la Défense a déclaré que les ovnis existaient, les ovnis comme moi je l'entends, là, et que ces chasseurs en avaient poursuivi à plusieurs reprises sans pouvoir les atteindre. Est-ce que notre ministre de la Défense nationale a déjà dit ça, nous autres?
Ben, il passerait pour un fou. Là.
Ben, c'est ça. Mais au Brésil, c'est accepté. Au Brésil, les gens ont dit, on le savait, okay. Tu nous apprends rien. Ils n'ont pas peur d'en parler. Ils n'ont pas peur. Personne ne passe pour un fou là-bas. Personne.
Puis au Brésil, est-ce qu'ils parlaient d'objets volants non identifiés ou ils parlaient d'extraterrestres, mettons?
Les deux.
Parce qu'il y a une différence entre les deux gens.
Non, il n'y en a pas.
Ben oui, ça peut être un avion supersonique.
Non, pas quand moi j'appelle ça un ovni. À partir du moment où je traite d'ovni, moi je traite de ce qui n'est pas d'ici.
OK.
Alors, c'est aussi simple que ça.
Est-ce que ça pourrait être le fait qu'il y a moins... Brésil, je ne connais pas vraiment leur défense militaire, mais y a-t-il des endroits où ils sont moins protégés, où on constate qu'il y a plus d'observations de ce type-là?
Bon, premièrement, il est bien évident que l'hémisphère sud est très riche en observations. Tout le monde vit dehors. Tu sais, tout le monde vit dehors. Il n'y a pas de neige là-bas, là, en février, là. Alors, ils sont l'été à journée longue.
La vraie vie.
Oui, entre autres. Mais en plus, tu sais, ils n'ont pas de... c'est des gens qui sont... la pauvreté est là aussi. Hein?
Oui.
Alors, passer la soirée dans la maison, là, c'est pas bien, bien intéressant, tu sais. Fait qu'ils sont dehors, puis ils vivent à l'extérieur. Même dans les villes, ça vit à l'extérieur, ça vit sur le toit des maisons, ça vit... Moi, là, quand j'étais là-bas, au Brésil... Le soir, c'était ça. T'sais, plein de monde dans les rues, tout le temps. Rarement, je te dis pas à 4 heures du matin, là, mais rarement là, du monde enfermé chez eux. T'sais, ça n'a pas de TV, ça n'a pas rien. Ce n'était pas des petits villages. Là. Les villages que j'ai visités tout le long du fleuve Amazon jusqu'à Manaus. Alors, c'est bien évident qu'ils sont... Alors, ils ont en tête dans les airs, ils ont en tête partout. C'est beaucoup de paysans, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'éleveurs. C'est du monde qui vit dehors. Alors, les Inuits, c'est sûr qu'eux autres, c'est moins fréquent. T'sais. D'abord, premièrement, la densification des Inuits n'est pas forte. Et puis, en plus de ça, ben, c'est un moment donné, il faut qu'ils rentrent, là, parce que c'est fret. Là. C'est bien beau rester dehors toute la nuit, mais il y a des limites. Et c'est la même chose chez nous, l'hiver, tu sais, on n'est pas dehors. Même l'été, des fois, on est en dedans. Tu sais.
Ouais.
La télévision nous garde en dedans. Il y a un paquet de... On va sortir s'il fait une belle soirée, là. Mais c'est tout. Alors, c'est comme les saucisses high grade, plus il y en a, plus ils sont fraîches, plus ils sont fraîches, plus il y en a, tout ça.
Je te pose une autre question, mais après ça, on passe à autre chose, OK, mon ami? Tu sais, t'as été enquêteur, t'as été rencontrer des gens, t'es interviewé, t'as essayé de faire sortir les témoignages que ces gens-là voulaient bien faire. Y avait-tu une corrélation entre les gens qui voyaient des choses puis leur niveau d'études?
J'ai fait un traité là-dessus. Puis je ne suis pas le seul. John Mack a fait exactement la même chose, puis Bob Hopkins. Ça a été fait, ce travail-là. L'échantillonnage est ultra parsemé. Il est impossible de dresser le profil parfait du témoin d'OVNI. Impossible. C'est à peu près égal dans les deux sexes. C'est à peu près tous les âges. Ça passe de 8 ans jusqu'à 85 ans. C'est sûr que la moyenne d'âge se situe entre 20 et 50 parce que c'est le plus grand nombre de gens qui vivent, c'est ça. Alors, ça c'est normal. Les niveaux d'études, du chômeur au prof d'université, à l'astronaute, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'astronautes qu'il y a de chômeurs. Mais je veux dire, si on regarde de façon générale, c'est des gens qui ont des métiers, qui travaillent, qui ont une famille. C'était tous des célibataires, pas d'enfants, tu sais, on pourrait dire il y a quelque chose là, tu sais. Mais non, tu sais, non, ils ont des enfants, puis ils n'en ont pas. Puis il n'y a pas de portrait type qu'on pourrait créer pour définir l'observateur d'OVNI typique. Ça n'existe pas.
J'ai le goût de te poser des questions que je t'ai comme jamais posées parce que j'ai jamais osé. Je vais le faire à soir. Est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu sais si ces gens-là vivent parmi nous?
Tu parles des... ces êtres-là. Oui, je le pense. C'est-à-dire que ce serait normal... qu'il y ait une présence. Mais je te dis pas que c'est le... tu sais, les MIBs, là, les hommes en noir avec Smith, là...
Will Smith. Men in Black. Smith,
là, ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a une gang dans un bureau de poste, là, puis c'est tous des extraterrestres qui sont maquillés en êtres humains. C'est pas de ça que je te parle. C'est clair. Ce que je te dis, c'est qu'il est tout à fait possible qui a Moi, je pense qu'il y a sous la mer, là, je pense, j'ai rien qui m'amène à dire ça, sauf que si je voulais écrire un livre juste sur les observations de vaisseaux qui s'enfoncent dans la mer, qui disparaissent en dessous de l'eau, je pourrais écrire un très, très gros livre, parce que c'est très fréquent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans l'eau, là? Où il s'en va? Puis il ne remonte pas, en plus. Alors, ça serait très facile de construire des bases sous-marines pour la simple raison qu'on connaît mieux la Lune qu'on connaît nos fonds marins. Puis il y a une maudite bonne raison à ça, c'est que les fonds marins, on ne peut pas aller là comme on veut. Passer une certaine distance, premièrement, c'est l'obscurité totale, tu vois absolument rien. Deuxièmement, la pression est insupportable, donc tu peux plus avoir de... Tu peux pas descendre dans un sous-marin qui a une belle bay window là, en avant, là, t'sais, pour tout regarder ce qui se passe, parce qu'elle va éclater ta bay window à 5 000 pieds, 6 000 pieds, puis ça va bien plus creux que ça dans les abysses. Alors, on ne va pas là souvent. On n'est pas capable d'y aller. On peut envoyer des machines qui vont filmer, mais c'est immense, là, l'océan. Là, n'oublie pas qu'il y a 7 fois plus d'eau en surface que de terre. Alors, tu sais, imagine, là. Alors, si quelqu'un s'est construit quelque chose dans le fond de l'eau, parce qu'ils ont la capacité de survivre à ça, la pression et tout, en dessous d'une montagne sous-marine, pourquoi pas? Ça serait c'est tout à fait envisageable. Tout à fait, là. T'sais, oui, ça fait science-fiction, mais je veux dire, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'imaginer ça. Ben, du monde, mon Dieu, il est pété, lui, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, je le sais, ça, parce qu'ils n'ont pas d'imagination, ils sont barrés à zéro, c'est tout. Leur ouverture d'esprit, ils ont peur d'en avoir une, ils pensent qu'ils confondent ça avec une fracture du crâne. Alors, le simple fait qu'on ait des océans de 30, 40 000 pieds de profond, avec des anfractuosités dans des îlots rochers qui pourraient exister là, puis se bâtir une ville sous-marine dont on soupçonnera jamais, jamais, jamais l'existence, me paraît plausible.
OK. Autre question, ce serait quoi leur objectif de venir nous visiter ou d'être au travers nous puis ne pas nous le mentionner?
Ça, c'est la question clé à laquelle on essaye tous de répondre. Moi, j'ai des éléments de réponse parce que j'ai étudié un aspect de l'ufologie qu'on appelle la question des fameux enlèvements qui n'en sont pas, là, mais tu sais, des enlèvements, c'est de quoi je parle, ou ce qu'on appelle les rencontres approchées du quatrième type, où des gens clament, c'est-à-dire qu'ils ont été littéralement enlevés. Enlevés, tu sais, ravis, si tu veux. On a fait des expériences sur eux qu'ils ont assimilées à des expériences médicales. Et en 88, le chat sort du sac. À un moment donné, les rapports commencent à dire, les femmes commencent à dire, quand je suis sorti de là, j'étais enceinte. J'ai eu un bébé dans mon ventre pendant 3 mois. Je suis retourné là-bas. Je suis ressorti, j'avais plus de bébé. Et un an après, ils sont venus me rechercher. Ils me l'ont mis dans les mains. Puis ils ont dit, materne-le. Et ça, là...
C'est weird,
y en
sacrifice.
C'est weird. C'est plein. Je te jure, Yannick, si tu devais... Tu l'as lu, mon maudit livre que
ben
je t'ai
oui,
envoyé,
ben
là,
oui.
50 ans d'ufologie? Bon, ben, c'est rien que de ça qu'il y a là-dedans. C'est rien que de ça. C'est constamment ça. C'est ça qui revient. Est-ce qu'ils sont en train de créer une race hybride? Est-ce qu'ils sont en train de modifier la race humaine comme ils l'ont peut-être fait il y a des milliers d'années, comme à peu près toutes les mythologies le racontent, parce que j'ai fait ce travail-là aussi. Quand tu étudies toutes les mythologies, autant nordiques, slaves, amérindiennes, russes, finlandais, grecs, roms, toutes les mythologies égyptiennes, toutes, elles ont toutes ça en commun. Les dieux ont manipulé les hommes. C'est pareil partout. Surtout la mythologie sumérienne avec les fameux Anunnaki. Je suis pas mal certain que tu m'as entendu parler de ça à un moment donné. Alors, ça, là aussi, c'est que ça qui ressort. T'sais. Alors, je te dis pas que c'est des preuves. Pas ça, je dis. Je dis, comment ça se fait donc? Des mythologies qui nous racontent toute la même chose sans s'être jamais parlé. Ça se parlait pas dans ce temps-là. Il n'y a pas d'Internet, là. Il n'y a pas de téléphone, il n'y avait rien, là. Alors, ça écrivait des grands textes et puis dans des langues que l'autre ne comprenait pas pour raconter exactement la même chose. Le dieu machin est descendu du ciel, il était sur une nuée lumineuse et là, il nous a appris toutes sortes de choses, dont la culture du maïs. Faut lire ce qu'ils disent, c'est incroyable. Même les Indiens, les Algonquins ici, ont une tradition qui ressemble exactement à ça. La même maudite affaire. Puis je le sais parce que je leur ai parlé à ces gens-là. J'ai parlé à leur chaman, j'ai parlé à des vieux, puis ainsi de suite, qui me racontaient leur mythologie à eux, dont personne ne parle, parce que faut pas oublier que les Indiens, ben, ça a été longtemps des païens, hein? Alors, on parlait pas à ça. C'était toutes des affaires de païens, parce que l'Église a tout détruit ça, puis ne voulait rien entendre de ça. Il fallait juste parler du Jésus, puis personne d'autre. Alors ça nous a fourré Saint-Henri. Mais quand tu te délaisses de tout ça, quand tu coupes ta dépendance là, à l'Église, au gouvernement, puis à la police, là, à un moment donné, là, tu fais pas mal ce que tu veux. Je parle pas de crime, là, mais je parle de t'es libre. T'es libre d'explorer ce que tu veux. Même si l'État veut pas ou l'Église veut pas, un sacrement, tu sais, je leur dois rien, ce monde-là. Alors, je l'ai fait, ça. Puis je suis pas tout seul à l'avoir fait. Je suis pas loin de là. Et le travail, c'est ça. Le Dieu est descendu. Il était lumineux. Il est descendu. C'était comme une barque lumineuse. Puis ça, là, le gars qui me raconte que ça, dans son champ aujourd'hui, il change les mots. Et c'est la même histoire, comme tu me demandais tout à l'heure, entre le Québécois et le Brésilien. Ça c'est factuel sur le terrain, mais de façon temporelle, c'est la même chose. Ce qui était vu il y a 300 000 ans, ou 35 000 ans, ou 10 000 ans, puis ce qui est vu aujourd'hui, c'est la même chose. C'est exactement pareil.
Jean, j'ai été sur ta page personnelle à toi, jcaso.com, puis j'ai vu que tu avais écrit dans les derniers jours là, un article sur le fameux boson de Higgs qu'on appelle la particule de Dieu.
Oui.
Peux-tu nous en parler? Peux-tu en parler aux auditeurs? Oui, c'est quoi ce fameux boson de Higgs? Pourquoi on l'appelle la particule de Dieu? Puis concrètement, ça sert à quoi?
OK. Alors, en 1964, il y a un monsieur qui s'appelle Peter Higgs qui a prédit l'existence d'une particule qui serait responsable de la création de l'univers. En d'autres termes, je te donne bon, ça c'est en 64. C'est ce qui a donné naissance au Large Hadron Collider, le grand collisionneur de Hadron à Genève, à 42 kilomètres de diamètre, le laboratoire.
42 kilomètres de diamètre.
42 kilomètres de diamètre. Et dans ça, tu feras un LHC sur ton machin. Là,
on appelle ça un ordinateur, Jean.
Oui, c'est ça. Ouais, non, mais je pensais que vous autres, les jeunes, vous aviez plus ça, vous aviez rien que des maudits téléphones. Le LHC, Large Hadron Collider. C'est immense. C'est 42 kilomètres. D'ailleurs, là, j'ai mis des photos sur l'article auquel tu fais allusion. Là.
Ouais.
Alors, ça, c'est pour faire circuler des particules. Particules, ce qu'on appelait autrefois des atomes. On ne dit plus ça maintenant, tout le monde dit des particules. Mais des atomes, tu sais, c'est quoi? C'est petit, là. Bon, c'est ridiculement petit, d'ailleurs. C'est invisible, là. C'est pire qu'un... C'est plus petit qu'un nanomètre qui déjà est considéré comme très petit. Bref, lui disait, cette particule-là attire toutes les autres et fait en sorte que la matière se crée par un effet d'attraction. Pourquoi on l'a appelé la particule de Dieu? Ben parce que qui était censé être le créateur de l'univers? C'était supposé être Dieu, tu sais. Fait qu'on s'est dit, ah, il s'est servi d'une particule pour faire ça. Moi, je l'ai appelé la particule Céline Dion. Oui. Oui.
Pourquoi?
Je ne demande pas pourquoi.
Pourquoi?
Parce que quand Céline Dion s'en va dans un amphithéâtre, elle remplit. Il peut y avoir 25 000 personnes. Mais toi, Yannick, si tu t'en vas au centre Vidéotron, puis tu dis « Je suis là, venez me voir », tu vas attirer combien de personnes?
Oh, d'après moi, il devrait avoir quelques femmes, mais ce sera pas...
Une ou deux, des ex.
Ouais, c'est ça. Ça dépend. Si j'ai ton compte en banque, là, ce serait plus élevé, le nombre de femmes qui m'approcheraient, mais non, je te l'ai dit.
Je te le souhaite pas.
Non?
Non. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais,
oui.
Tu prends n'importe qui, puis tu l'envoies au centre Vidéotron, puis... Il n'y a pas un chat qui va aller là. Le gardien va dire, madame, vous n'avez pas le droit d'être ici, elle va sortir. T'sais. Alors, c'est la différence. C'est que la particule Céline Dion, quand elle se déplace, elle attire d'autres particules qui viennent se greffer sur elle. Ce qui fait qu'on peut alors dire que c'est une particule qui crée une masse. Et dès que tu crées une masse, tu crées de la matière. Quand tu crées de la matière, tu crées le monde. Mais là, il fallait prouver qu'elle existe, cette affaire-là. Et le problème, c'était que tous les hommes de science qui était questionnée là-dessus espérait, d'une certaine façon, qu'elle n'existe pas. Parce que, excuse-moi l'expression, mais ça fuckait tous leurs enseignements de physique et physique quantique depuis 45 ans s'ils devaient découvrir qu'elle existe. Puis il y a un documentaire vidéo que tu peux consulter parce qu'il est encore sur le net, qui s'appelle « The Particle Fever ». Et je pense qu'il a été traduit « la fièvre des particules ». Si tu mets la main là-dessus, tu vas tout comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Mais tu vas voir aussi la face. Parce que là, ce qu'il nous montre, c'est le 22 mars 2013, si je ne me trompe pas. Ils étaient tous réunis au LHC, toute la gang. Tous les astrophysiciens, les physiciens, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur eux. Parce qu'il a été construit pour ça, cette affaire-là. Et là, la question était de savoir, il vient d'arriver quelque chose, on est en train de l'analyser, ça fait déjà un an qu'on l'analyse, on a maintenant la réponse, c'est de savoir est-ce que le boson de Higgs existe ou s'il n'existe pas. Et la réponse, mesdames et messieurs, il existe. Et là, ça a été la folie furieuse, l'euphorie, il y en a qui pleuraient, il y en a qui insistaient. Une grosse, grosse affaire. Et comme je dis dans mon article, au Québec, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à la science, à part les scientifiques. Alors, ça n'a pas été tu ne peux pas comparer le boson de Higgs avec Guy Lafleur.
Non, je sais, mais tu sais, moi, je veux dire, c'est de la lecture que j'aime. J'adore lire sur le boson de Higgs. J'ai aimé aussi la théorie des cordes. Je veux dire, quand on commence à se pencher sur la théorie des cordes, là, ça fait vibrer dans notre tête des choses que, où on n'a jamais été. Là.
Non, c'est ça, la théorie des cordes, puis la théorie des super cordes.
Des super cordes, effectivement.
On finit plus, ça finit plus. Mais ça, on entend pas mal moins parler de ce temps-ci. Là, ils sont en train de revenir sur le... avec James Webb, ils sont en train de revenir sur l'existence ou la non-existence du Big Bang. Alors ça... Bon. Mais ça, c'est de l'astrophysique, c'est de la... comment je dirais ça? Non, c'est de la mécanique quantique. C'est des grandes questions universelles qui sont en train de se poser, puis ils n'ont pas les réponses. Mais là, d'ailleurs, pourquoi j'ai écrit cet article-là? Parce que je me suis dit, ils ne sont pas capables de savoir si le boson de Higgs est vraiment responsable de ci, de ça. Et pendant 45, 50 ans, ils se sont posés la question, à savoir, c'est quoi cette affaire-là, ça existe-tu? Ils ne savent rien. La science, c'est bien des affaires. T'sais? Mais il y a bien des affaires qu'elle ne sait pas. Et actuellement, tout ce qui concerne la phénoménologie ufologique, ils ne savent rien. Ils ne savent pas s'il y a de la vie ailleurs. Ils ne savent pas s'il y a de la vie intelligente. Ils ne savent pas. Ils savent rien. Mais ils vont nous dire, mais ça n'existe pas. De quel droit? Quel droit ont-ils de dire ça? Quand tu ne sais pas, tu fermes ta gueule. C'est tout. Ou tu émets des hypothèses, des théories. Tu t'avances. Puis tu dis, ben, écoute, compte tenu de ça, il est fort possible que des formes de vie extraterrestres intelligentes soient déjà entrées en contact avec l'être humain, le sont encore, mais pour des raisons qui nous sont obscures, se tiennent à distance et ne cherchent pas à entrer directement en contact avec nous. Pourquoi? Bon, peut-être parce qu'on est une gang de gnochons puis de débiles. On a juste à regarder ce qui se passe en Ukraine, là. Je veux dire, regarde, on est une bande de cons. Alors, c'est la corruption, la mafia, la drogue, c'est pas une bien belle planète. Là. Je veux dire, on s'arrange, là, on s'en tire bien, nous, au Québec, ici, notamment. Là. Mais je veux dire, il y a des places dans le monde. Tabarnouche, c'est épouvantable.
Ah, c'est sûr. Alors, c'est sûr que ça avance.
C'est pas un monde bien, bien intéressant. Puis c'est pas un monde où tu as envie de rentrer. Puis de dire, allô, nous voici, on va vous livrer tous nos secrets, on va tout vous... Non. Alors, ce qui se passe, je le sais pas. Je ne sais pas plus que moi, que n'importe qui d'autre. Mais il se passe quelque chose, c'est gros, c'est colossal. T'es-tu parlé de l'affaire du Pentagone?
Oui, ben on en était là parce qu'il reste à peu près 3 minutes à l'émission, mon ami.
Ben, je veux juste te dire qu'à un moment donné, le responsable, le grand responsable du Pentagone puis des services de renseignement de la marine, s'est présenté au Congrès américain. Il a montré des photos puis des vidéos d'OVNI. Puis là, tout le monde regardait ça en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce gars-là? Ils ont regardé puis ils disent, ladies and gentlemen, I don't have a clue what those are. J'ai aucune idée c'est quoi ça. J'ai 780 milliards de budget de défense par année et je suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est ça. Ça, c'est une grosse date. Ça s'est fait en mai 2022. Ça a fait les journaux aux États-Unis, ça a fait CNN, ça a fait ici au Québec, rien. À rien. A-R-I-E-N. Zéro. Alors, demande-toi pas pourquoi des fois c'est difficile d'être cru ou d'être crédible quand tu parles d'OVNI ou de fantômes, ben, surtout d'OVNI. Je veux dire, quand les médias ne font pas leur travail. Parce que c'est une grosse affaire, ça. Le gars s'est pas levé un matin. Le gars qui s'est levé ce matin-là, là, du Pentagone, qui s'en allait au Congrès, là, s'en allait dire aux congressistes, vous nous donnez un maudit paquet d'argent par année, mais regarde, je suis pas capable de te dire c'est quoi ça. Qu'est-ce qu'il a pris, là, lui, de faire ça? Il y a quelque chose, il y a un agenda caché en arrière de ça. Là. Je ne fais pas de la conspiration, moi, les conspipis, là, c'est pas mon style. Mais je pose quand même la question, pourquoi il a fait ça? Et comment se fait-il que personne n'y ait posé la question comme je viens de le faire? Monsieur Gray, Scott Gray, son nom, êtes-vous en train de nous dire que l'argent qu'on vous donne ne vous aide pas à déterminer c'est quoi ces affaires-là, puis qu'est-ce qu'ils veulent, puis ainsi de suite? C'est tout ça que vous êtes en train de nous dire?
Okay. À la vitesse que ça va vite en sacrifice. Là. Mettons, l'avion, il va à quoi? C'est un avion de ligne?
Quel avion?
Parce que je suis en train de regarder les vidéos du C-SPAN, là, de ce que tu me parlais. Là.
Oui, regarde. Ils ne sont pas tous là. Donc,
ils vont entre 800 et 1200 km/h, mettons?
Oui, c'est ça.
Fait que ça le dépasse. Là.
Ben, ça le dépasse. C'est pire que ça. Il y en a un moment donné, il est direct devant lui. Là. Puis là, un moment donné, il n'est plus là. La force d'accélération. La vitesse, c'est bien beau. La vitesse, c'est bien. Mais la force d'accélération, on ne l'a pas. Regarde la fusée qui part, là, la grosse fusée qui est partie l'autre jour. Là. Ça monte lentement, lentement. Tu sais, moi, je les ai vus monter. Moi, j'étais à Titusville, juste en face de la NASA, quand ça grimpait devant nous autres. Tu vois ça grimper, puis c'est lent. Ah, là, ça prend de la vitesse. C'est sûr que rendu de l'autre bord, là, ça fly à des vitesses de fou. Mais l'accélération, on l'a pas, ça. On l'a pas. Tu peux pas prendre un auto puis y faire 600 000 à l'heure en 2 secondes. Oublie ça. Elle peut peut-être atteindre cette vitesse-là. Ben, je ne sais pas, y a-t-il des chars qui ont cette vitesse-là, des chars de course?
Quelle vitesse, t'as dit?
600, c'est vite, ça. Là.
Ça peut être un record de vitesse peut-être à un moment donné, mais je pense pas que ça arrive régulièrement.
Bon, mettons un record de vitesse, mais ça reste que l'auto qui atteint cette vitesse-là, c'est pas en partant.
Oui, puis la personne qui est dedans aussi, là, la personne qui est dedans subit une pression qui est épouvantable.
Ben, c'est ça, il y a des limites. T'sais. Alors, comment se fait-il que cet objet-là ait une force d'accélération qui est égale à sa vitesse optimale? C'est ça l'équation qu'il faut
que tu fasses. C'est une bonne question. Jean Cazot, ton prochain livre sort quand? Hein? Ton prochain livre, c'est quand?
À l'automne. Je vais en parler davantage éventuellement, mais là, pour l'instant, je ne donne pas de nom de titre ni nom d'éditeur. Je ne veux pas d'interférence. Là. Alors, mais ça ouais, non, c'est dans le monde du livre, des fois, là, faire attention.
Fait que tu vas m'envoyer ça?
Ah, ben oui, c'est sûr.
C'est un gros plaisir pour les gens qui veulent te suivre, peuvent te suivre sur tes pages Facebook Jean Cazot ou encore sur ton site web jcazot.com.
Yes, monsieur.
Je te souhaite de passer une belle fin de soirée. Merci d'avoir été des nôtres en ce vendredi. Puis les auditeurs t'apprécient. T'es moins grognon que d'habitude. D'habitude, t'es plus grognon que ça.
Ben non, j'ai arrêté ça.
T'as arrêté ça, hein?
Passer 70, là, faut que t'arrêtes.
T'as de l'air
pas
encore
bon,
d'un jeune homme. Merci,
bon
Jean.
Pour le cœur.
Merci,
salut.
Jean Cazot. Bye bye.
Pas de trop. Bye. Marceau, le soir.
Chaque jour, vous donnez la vie à votre famille, à votre cercle d'amis, à des gens dans le besoin. Vous donnez vie à votre environnement de travail, à vos projets, à votre engagement dans la société. Les communautés chrétiennes aussi supportent la vitalité de votre milieu. Donnez vie à votre communauté par vos dons, votre engagement, vos bonnes idées. Faites une différence et aidez votre paroisse à être un pilier dans la communauté. Rendez-vous sur campagnedesparoisses.org.
Le mercredi 10 mai, c'est le grand McDo. Chaque achat fait chez McDo vient en aide aux enfants malades et à leurs familles. Ça veut dire que vous êtes à un Big Mac près d'être un héros.
OK, mais si je prends un trio quart d'olive?
T'es un héros.
Un McFlurry?
Héros.
Une poutine?
Héroïne.
Un petit café en lisant le journal?
Héros!
Si je prends juste une McCraquette?
Techniquement impossible, mais...
Héros!
Soyez un héros. Joignez-vous à nous lors du Grand McDo le mercredi 10 mai. Détails dans les McDo participants.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Êtes-vous prêt pour le chapitre final de...
Pas encore.
Les gardiens de la galaxie.
Pas encore.
Êtes-vous vraiment, vraiment prêt?
C'est bon, allez-y!
Maintenant.
On n'est pas des héros, on est les gardiens de la galaxie.
The Marvel Studios, Les gardiens de la galaxie, volume 3. Billets disponibles dès maintenant.
Vous connaissez la zoothérapie, mais à l'espérance, c'est plutôt l'agrithérapie que nous vous proposons. Nos activités permettent d'interagir avec des animaux de la ferme, comme des agneaux, des veaux et des cochons. En plus de semer le bonheur, croître les sens et récolter des souvenirs. Notre équipe et nos animaux de la ferme se déplacent dans les garderies, écoles, institutions et même les centres d'hébergement pour personnes âgées. Informez-vous, l'espérance, une récolte d'apprentissage et d'espoir. Découvrez l'agrithérapie sur l'espérance avec un e.com.
Pour la réparation et l'entretien de votre roulotte ou fifth wheel, pensez à Motorisé de la Capitale. Peu importe la marque et où vous l'avez acheté, on peut la réparer. Prenez rendez-vous, pensez VR Pro Motorisé de la Capitale.
Sortie 305 de l'autoroute 20, mdlc.ca.
Ça, la radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Marceau, le soir. Le soir.
En espérant que cette heure en compagnie de Jean Cazot vous a plu, c'est toujours divertissant de jaser avec Jean Cazot, qu'on y croit ou qu'on y croit pas. Hein. En passant, Jean n'impose rien à personne, il parle de ses trucs à lui et de ses opinions. Et c'est ça, je pense que ça fait plaisir à une vaste majorité de personnes. Puis on va y rejaser peut-être d'ici l'automne prochain pour prendre peut-être un peu plus de renseignements sur le livre qui va sortir. Donc, je vous souhaite de passer un super de beau week-end, les amis. Il annonce beau, fait que profitons-en. Et on se rejase lundi à 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi. Profitez de votre famille, profitez de vos enfants, profitez de vos amis. Profitez d'une petite bière en ce samedi soir ou en ce vendredi soir. Puis voilà, salut, bye-bye, à lundi, ciao!
Marceau le soir.
4000!
Vous venez d'entendre la voix d'une personne subjuguée par le nombre de montures disponibles chez lavue.ca. 4000 montures en inventaire. Plein de collections tendances dans toutes les tailles et pour tous les visages. N'attendez pas, lavue.ca. Détails en magasin, Véronique Michaud, opticienne.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667.
ABBA.
ABBA, une solution définitive.
Emporium Microbrasserie vous présente sa nouvelle bière, la Limbo, parfaite pour la saison estivale. Une New England Pale Ale d'apparence voilée à finale sèche. Ses notes de mangue, clémentine et orange sont idéales pour accompagner tes soirées d'été. Viens l'essayer. Réserve sur microbrasserieemporium.com.
Boulevard 102, la radio de toutes, tout le monde, tout le temps.
Une fois en camping, j'ai vu un extraterrestre. Il a même placé un message dans mon cerveau.
Avec Fizz, tout le monde gagne. Plus vous restez, moins vous payez.
Vous me croyez pas? Allez voir sur fizz.ca.
C'est le moment de sortir et d'explorer. Optez pour le tout nouveau Kia Sportage 2023, un véhicule qui vous ressemble. Conduire est encore plus facile que jamais avec l'application Kia Connect et l'assistance intelligente de stationnement télécommandée. Vous pouvez également choisir votre mode de conduite avec les modèles essence, turbo-hybride et hybride rechargeable. Le meilleur moment pour conduire le tout nouveau Sportage 2023, c'est maintenant. Achetez le vôtre chez votre concessionnaire Kia.
Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
En mai, méga promo Perfect Stop chez Pièces d'auto économiques. Jusqu'à 20% de rabais, profitez-en, c'est une fois par année. De plus, obtenez 15% de rabais sur les huiles Total. Pièces d'auto économiques, 8 magasins, un site transactionnel. Cadeau à chaque commande au pièceséconomique.com.
Demers.
Pédalez sans vous ruiner grâce à notre financement à 0% d'intérêt sur tous les modèles à prix réguliers et pour toute la famille. Junior, hybride, route et électrique. Offre d'une durée limitée. Pour plus d'infos, 3e avenue Québec, demersbicycle.com.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça sera la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
C'est l'heure d'aller coucher les enfants.
Coucher les enfants.
Le bonhomme débarque avec sa musique du diable.
This is the Prince of Darkness.
Voici le bonhomme 7 heures, Matt Margotte.
Le bonhomme 7 heures le moins épeurant de l'histoire. Mon nom est Mathieu Margotte. Bien content de me joindre à vous. C'est juste que je n'ai pas les qualificatifs de bonhomme 7 heures. Je fais pas peur à personne. La seule affaire, c'est que j'arrive à 7 heures le vendredi soir pour présenter des tunes à Boulevard 102.1. Et on commence avec les 7 plus grosses tunes de la semaine, les chansons qui font réagir sur le blvd.fm parmi nos nouveautés. Et cette semaine, ça brasse un petit peu le top 7. Il y a des chansons qui prennent du galon. Il y a des chansons qui traînent de la patte aussi un peu. Et on va commencer ça avec la 7e position. On part ça immédiatement avec la formation Foo Fighters qui va nous offrir un spectacle cet été. Au Festival d'été, dans le cadre du FEQ sur les plaines. Bien hâte de voir la nouvelle mouture des Foo Fighters. En fait, c'est le même band, c'est juste que Taylor Hawkins, malheureusement décédé, et sera remplacé à la batterie. On les écoute avec Rescue dans 7e place.
Le 7 de 7, nos 7 plus grosses tounes de l'antenne. Numéro 7.
Are you thinking?
727.
Boulevard 102.1.
Numéro 6. Les 7 meilleures chansons selon vos votes au BLVD.fm. Numéro 5.
Thank you.
7 de 7, les chansons les plus performantes de la semaine. Numéro 4, le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures. Voici Matt Marcotte.
On avait Pierce the Veil avec Emergency Contact, 5e position. 6e place, Fall Out Boy, Love from the Other Side, c'est le premier extrait et la meilleure toune tirée du dernier album So Much for Stardust. J'aime bien le retour de Fall Out Boy. En 3e position, on aura dans les prochains instants Papa Roach avec Cut the Line. Papa Roach,